Les Racines du Ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvard, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Régis Nicolas. Aujourd'hui, nous recevons François Favre pour nous parler de Mani. François Favre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, scénariste, journaliste, conférencier, spécialiste de Krishnamurti, éducateur auprès de jeunes en difficulté. Et vous avez publié en 2002 chez Septenaire Mani, Christ d'Orient, Bouddha d'Occident. Alors, je tiens à dire d'abord que nous avons fait cette émission à la demande des auditeurs. C'est-à-dire que nous avons régulièrement des auditeurs qui nous écrivent pour nous dire « Mais pourquoi vous ne parlez pas d'un tel ou d'un tel ?» Donc, j'en profite pour le dire. Continuez, parce que ça nous donne de très bonnes idées. Si vous avez des idées de sujets ou d'invités qui pourraient venir dans cette émission, n'hésitez pas à nous écrire. Et donc, on nous a beaucoup demandé de parler de Mani, qui est un personnage effectivement assez méconnu, tout à fait passionnant, on va le voir avec vous. Alors on connaît l'expression de manichéisme, mais on ne sait pas très bien d'où elle vient et quel est ce personnage qui a donné qui est à l'origine de cette expression assez péjorative. Mais je voulais d'abord vous poser la question, comment est-ce que vous-même, qui êtes donc vous intéressez à beaucoup de choses, vous êtes un journaliste écrivain, comment est-ce que vous avez été amené, n'étant pas spécialiste universitaire de Mani, à vous intéresser à ce personnage ?
À l'origine, c'est la lecture du livre d'Amin Malouf qui a été le déclencheur de cette recherche. C'est un livre qui m'avait été transmis par ma femme et qui m'a dit « c'est un personnage extrêmement intéressant ». Et je m'intéresse à la gnose depuis que j'ai une quinzaine d'années. Hein, donc c'est la pensée qui est sous-jacente à la pensée de Mani. Et donc, mais je ne connaissais pas le personnage, je ne connaissais pas son histoire. Et donc, en lisant le livre d'Amin Malouf, j'ai découvert donc un personnage, une vie, et je me suis posé un certain nombre de questions à la lecture du livre qui touchaient à la question de l'enseignement. Dans l'introduction du livre, Amin Malouf introduit pourquoi tant de haine contre une religion extrêmement subtile et tolérante. Pourquoi le manichéisme est la religion la plus persécutée, selon les spécialistes, de l'histoire humaine, de l'histoire de l'humanité. Et donc, j'ai cherché à répondre à cette question-là en étudiant le manichéisme pendant plusieurs années. Je faisais d'autres choses à côté. Mais c'est cette question qui a été la mienne.
Lélie, bonjour.
Bonjour.
Je suis sûr que vous connaissez le nom du livre d'Amin Malouf.
Oui, c'est Les Jardins de Lumière. Et j'ai eu à peu près. Enfin, je ne suis pas partie sur les traces de Mani parce que, évidemment, mon origine persane m'avait un peu familiarisée avec Mani quand même. Mais néanmoins, en lisant ce livre, j'ai eu la même impression que vous. C'est-à-dire que ça a été vraiment une sorte de... On entre dans un jardin de lumière. C'est un très, très beau livre d'Amin Malouf.
C'est un roman ?
C'est un tout petit roman. En fait, c'est une biographie romancée, comme il sait si bien les faire. Et c'est vrai qu'il part de l'enfance. Évidemment, il imagine plein de choses qu'un romancier imagine. Mais je trouve que ça rend très bien une ambiance, un personnage. Et on tombe amoureux de Mani. Je comprends que vous soyez tombé amoureux de Mani après avoir lu ce livre.
Donc, à lire en complément de votre ouvrage, Mani, Christ d'Orient, Bouddha d'Occident. On reviendra après sur ce sous-titre.
Sur le titre, oui.
Alors, Mani, il a vécu à quelle époque ? Qu'est-ce qu'on sait de lui ?
Alors, historiquement, le développement du manichéisme, ça va du 3e siècle de notre ère. Jusque, on va dire, le XVIIe siècle, hein, les dernières traces de manichéisme qu'on trouve en Chine. Et donc, Mani naît à un moment particulier de l'histoire, dans un contexte géopolitique qui est celui de l'opposition entre trois grands empires. L'empire perse, qui est un empire renaissant, dont le projet est de revenir en fait à la grandeur des Achéménides, qui ont été les premiers, le premier grand empire perse, et l'empire chinois et l'empire romain. L'empire romain est déclinant et l'empire perse est donc renaissant. Et donc Mani naît à un moment donné où il y a des conflits religieux qui sont extrêmement intenses, avec des relents de nationalisme et où la religion est aussi le support d'une idéologie politique. Et donc, l'histoire de Mani montre comment conjuguer, du moins c'est une des questions de Mani, comment conjuguer les différentes conceptions religieuses. C'est un personnage...
Il naît où ?
Alors, il naît en Mésopotamie, en Irak.
Donc, au milieu du 3e siècle,
en fait, le moment de sa naissance, c'est 216.
D'accord. Hein,
216, 276, donc sa vie porte sur 60 ans. Donc, il naît dans une famille noble, on va dire d'origine noble. Et très tôt, en fait, son père se convertit à un mouvement qui s'appelle, du moins, qu'on retrouve aujourd'hui comme étant les El Kassaïtes, hein, ou les vêtements blancs. Et il quitte sa femme, il va s'installer dans cette communauté, et quand Mani a 4 ans, il vient le rechercher et il l'emmène. Et en fait, un certain nombre de signes montrent que Mani a des dispositions très particulières. Et il dit que, justement, à cette époque-là, quand il a 4 ans, il dira ça plus tard, qu'il vit entouré des anges et qu'il semble être destiné à une mission. Et donc Mani va grandir dans un milieu qu'on pourrait appeler sectaire, au sens, c'est un milieu qui est coupé du monde, où les gens ont des croyances particulières, qui sont essentiellement des croyances issues du judéo-christianisme, où le Christ a une importance, est une figure centrale, mais en même temps, toujours associé à des rites de purification, pour l'essentiel. On pourrait penser, c'est une image, hein, aux Esséniens, par exemple, où l'eau, l'élément eau, joue un rôle très important. Et Mani va grandir dans un milieu qui lui semblera hostile. Et vers l'âge de 12 ans, il a une première révélation. Et il rencontre cette figure intérieure qu'on voit chez beaucoup de, par exemple, de mystiques de l'islam, notamment les mystiques iraniens, qui est la figure du bien-aimé, du jumeau, du double. Et c'est ce double qui commence à lui transmettre un certain nombre d'indications en le préparant à sa mission. Et cette révélation le fait entrer en contradiction avec les règles de la communauté dans laquelle il vit, qui est une communauté ascétique. Hein, et donc, le jumeau lui dit de garder pour lui cette révélation. Et il attendra l'âge de 24 ans où, à nouveau, le jumeau se manifestera à lui. Et à ce moment-là, le poussera à sortir, disons, de cette secte pour créer son propre mouvement. Là, on voit par exemple une analogie à travers le temps avec Krishnamurti.
Et j'y pensais en vous écoutant, je me dis vraiment, on est sur le même schéma.
Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est on voit aussi que là, on est à la fois dans l'histoire et dans le mythe. Hein, c'est-à-dire que la vie des fondateurs de religion, c'est à la fois une histoire et en même temps un mythe, c'est-à-dire un mythe qui doit être revécu par ceux qui viendront après eux.
Comment est-ce qu'on connaît ce que vous venez de nous raconter, quel texte raconte la vie de Mani ?
Alors, il y avait des indications essentiellement chez ceux qui en avaient gardé la trace, notamment chez les hérésiologues. Il y a eu beaucoup de légendes concernant la vie de Mani, mais les éléments, par exemple, tels que je les ai décrits, qui sont décrits dans le livre des Jardins de Lumière, sont des éléments qui datent en fait des années 70, par la redécouverte d'un texte qui s'appelle le Mani Codex, hein, qui était un tout petit texte que les manichéens portaient sur eux lorsqu'ils se déplaçaient, parce que les manichéens étaient essentiellement des prédicateurs errants, donc ils avaient pour mission d'errer dans le monde, c'était leur tâche, hein. Ils ne pouvaient pas s'attacher à un lieu ou à un endroit particulier, et donc ce qu'ils portaient avec eux, ce petit texte qui était la Vita de Mani, qui représente les 24 premières années.
Et ça, donc, c'est une découverte archéologique très récente, donc années 70.
Oui,
ça s'est fait dans quel contexte ?
On ne sait même pas comment le texte est réapparu, parce que simplement on l'a redécouvert à la bibliothèque d'Azan à Cologne. Ce sont des universitaires qui ont redécouvert le texte et qui se sont aperçus qu'à ce moment-là, effectivement, c'était une des vies de Mani. Mais on ne sait pas exactement comment le texte par lui-même a été redécouvert. Bon, ça fait partie d'un ensemble de découvertes qui ont été faites dans les années 30 en Égypte. Et puisque c'est le grand moment où on redécouvre, avant Nag Hammadi, les textes manichéens au Fayoum, et parmi lesquels on trouve par exemple les Kephalaya et les homélies, et qui sont des textes de disciples, qui ne sont pas les textes de Mani lui-même, mais qui sont les grands textes, et le psautier manichéen surtout, hein, les psaumes manichéens, qui sont des textes donc écrits par les disciples et non par Mani lui-même.
Oui, et la langue qui est utilisée dans ces manuscrits, c'est quelle langue ?
Alors, les langues sont très diverses. Le texte lui-même est en copte à l'origine, donc c'est de l'égyptien, je dirais, moderne, ancien, on va dire ça comme ça, et qui ont été donc traduits d'abord en anglais. Et donc, c'est un bon exemple de ce que montrent les découvertes qui ont été faites. L'enseignement de Mani a été traduit dans beaucoup de langues de l'époque ancienne, puisque on trouve dans les redécouvertes qui vont de 1900 jusqu'en 1980 à peu près, puisque on a découvert un site manichéen dont on a peu en fait d'informations pour le moment, réellement pour le grand public. À nouveau en Égypte, où on a retrouvé des bâtiments, des lieux dans lesquels les manichéens ont vécu, mais pas beaucoup de textes. Et donc les langues qui ont été utilisées vont de l'ancien turc, du moyen perse, du chinois,
du grec,
du latin. Les manichéens avaient des centres de traduction, c'était une de leurs activités principales. Donc ils traduisaient non seulement les livres de Mani et leurs propres livres, et aussi les livres d'autres mouvements, d'autres auteurs. Donc c'est une activité très importante.
Alors, avant qu'on en vienne à l'enseignement de Mani, qui est le plus intéressant, je voudrais quand même qu'on finisse un peu de parler du personnage, de sa vie.
Oui.
Qu'est-ce qu'on sait de sa vie ? À part le début que vous avez raconté, qui est tout à fait passionnant, est-ce qu'on sait après comment il a développé son propre mouvement, comment il est mort ?
Tout à fait. Alors, cette seconde révélation le pousse en fait à quitter le mouvement des El-Kassaïtes. Il fait un premier voyage en Inde sur la trace des communautés de Thomas. Thomas, c'est un des apôtres de Jésus qui a été donc porté le christianisme vers l'Orient. Et au bout d'un an, au moment où Ardashir, qui est le fondateur de la dynastie des Sassanides, meurt, au moment où son fils vient au pouvoir, Mani revient en Iran et reçoit la possibilité, par les contacts qu'il avait déjà établis, d'être reçu et donc de pouvoir présenter sa religion comme une possibilité à l'intérieur de l'Empire perse, qui est confronté donc à des problèmes de religions multiples. C'est un peu comme le problème d'Alexandre ou de tous les grands conquérants, c'est-à-dire comment faire cohabiter dans un même espace culturel, du moins intellectuel et culturel et religieux et de croyances, des gens qui ont des croyances très très différentes. Et le manichéisme se pose, puisque c'est comme ça que Mani se présente et se révèle, comme étant celui qui porte en lui la synthèse de l'enseignement de Zoroastre, du Bouddha et du Christ. Et donc, à un moment où, en même temps, le pouvoir est soumis à une tentation nationaliste, par l'intermédiaire aussi des mages zoroastriens, qui veulent imposer dans l'Empire la religion zoroastrienne à tous. Et là, évidemment, il y a une alternative qui se pose devant le roi, qui en même temps est séduit par les thèses manichéennes.
Et comment est-ce qu'il a connu le Bouddha ? C'est en Inde, j'imagine. Il avait vraiment une vraie connaissance du bouddhisme ?
Oui, il avait une connaissance des textes bouddhiques, probablement, une connaissance sur le terrain. Mais là, on n'a pas beaucoup de traces de cela, mais on sait que dans le voyage en Inde, il a pu rencontrer
des
moines bouddhistes. Mais le phénomène, je pense, se situe ailleurs. C'est-à-dire qu'il avait connaissance des légendes, de la vie légendaire du Bouddha, et il voit une analogie, je pense que c'est ça qu'il voit tout de suite, c'est qu'il voit une analogie entre la vie du Bouddha, la vie de Jésus et la vie de Zoroastre. Et je dirais le principe, le lien peut-être le plus évident, c'est à la fois la question de l'éveil, c'est-à-dire le Bouddha est un éveillé, Jésus peut être considéré aussi comme un éveillé, quand il est question de la renaissance d'eau et d'esprit. Et Zoroastre est aussi un homme illuminé, un homme. Et la particularité, c'est que chacun, à partir d'un sentiment de compassion extrêmement puissant, qui est lié à l'âme, pousse en fait les religions de son temps à se réformer dans le sens, on pourrait dire, de de l'intégration, de l'unité, de la reconnaissance de l'autre, de l'amour, de l'empathie, et avec aussi un lien très particulier avec le règne animal et le règne végétal, qu'on retrouve ce que j'appelle une sensibilité chamanique, si on peut dire ça comme ça.
Et est-ce que Mani croyait en la transmigration des âmes ou pas ?
Oui, tout à fait. C'est un des principes essentiels du manichéisme, comme dans le bouddhisme. C'est-à-dire qu'on retrouve... Le principe central, c'est le dualisme. C'est-à-dire l'idée, en fait, de l'existence de deux mondes.
Alors ça, on va y venir bientôt.
D'accord. Mais parce que c'est en même temps le lien. C'est-à-dire, c'est pour comprendre le lien entre les, par exemple, entre le Bouddha et le Christ de ce point de vue-là, il faut identifier le nirvana et le samsara avec le royaume et le monde.
Eh bien, on en parle tout de suite après une petite pause musicale.
Très bien.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie aujourd'hui de François Favre qui nous parle de Mani. Alors François Favre, nous parlions à l'instant de la doctrine de Mani, et au fond, peut-être le premier point à rappeler, parce que c'est tout ce qu'on a en tête, c'est l'idée de ce fameux dualisme, le manichéisme. De quoi s'agit-il ?
Alors, on va le prendre, je pense, en plusieurs étapes, en plusieurs phases. Mais le principe essentiel du manichéisme, c'est ce qui surgit de la révélation de Mani, la seconde révélation. C'est comme ça qu'on identifie le manichéisme. C'est la doctrine des deux principes et des trois temps. L'idée des deux principes, on va dire, est une spécificité manichéenne. C'est pas nécessairement une spécificité, par exemple, du zoroastrisme. Il y a eu plusieurs formes de zoroastrisme, mais on trouve quand même dans le dualisme iranien la base d'une conception du monde, deux principes, deux mondes, hein, donc qui sont opposés, l'existence du monde de la lumière, l'existence du monde des ténèbres. Et Mani explique, à travers son mythe, qui se développe en trois temps, qu'à l'origine, les deux principes et les deux mondes étaient séparés. Et il y a un événement particulier qui fait que ces deux mondes sont amenés à se rencontrer, et qui crée donc le deuxième temps du mythe, qui est le temps du mélange. Et le temps du mélange, en relation avec nous, c'est la condition dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire le mélange entre lumière et ténèbres, esprit et matière. Hein, c'est ça le point de départ de, on pourrait dire, du manichéisme, avec cette idée, c'est-à-dire la traduction dans le, on pourrait dire, pratique, c'est que dans la mesure où la lumière et les ténèbres sont mélangées dans le monde et dans l'homme, la question va être comment extraire la lumière des ténèbres, aussi bien par des moyens mécaniques, comme la constitution de l'univers, que par un processus de libération et d'initiation, donc dans le manichéisme.
Oui, donc cette idée de libération, elle est essentielle dans le sens où... C'est-à-dire que dans le manichéisme, il y a cette idée que ce monde-ci, c'est quand même un monde de ténèbres, de mal, de douleur. On y est en exil, l'âme y est en exil, elle y est en prison, donc... Ce qui a donné plus tard l'expression péjorative de manichéisme, ça veut dire vraiment l'idée qu'il y a quand même deux mondes qui sont essentiellement différents et séparés l'un de l'autre.
Ça ressemble beaucoup au catharisme, ce que vous dites.
Absolument. D'ailleurs, c'est l'origine du catharisme, si je vous ai bien lu.
Je dirais simplement par rapport au catharisme que ce sont deux, c'est très important aussi bien pour les historiens que pour moi, ce sont deux mouvements totalement indépendants. Puisque par la suite, justement, les manichéens vont devenir le paradigme de l'hérésie, donc l'hérésie par excellence, et toute forme d'enseignement qui enseignera une forme de dualisme sera aussi bien dans l'Empire perse, l'Empire arabe, l'Empire chinois, les mouvements à combattre.
Hein, c'est-à-dire pour les chrétiens comme pour les musulmans, c'est vrai.
Les chrétiens, la grande et les Chinois. Et les Chinois. Hein, il ne faut pas, l'oublier. Et alors qu'en fait, ce sont des mouvements qui surgissent à différents moments du temps, mais qui sont totalement indépendants. Par contre, il y a quand même des liens extrêmement subtils, mais qui n'ont rien d'historique. J'insiste là-dessus.
Ah, oui, on dit autrement cette même doctrine de dualité profonde entre la matière, l'esprit, la lumière, les ténèbres.
Parce qu'on la retrouve même en Inde. Hein, on oublie une chose, c'est que le yoga est basé sur le Samkhya, et que le Samkhya est l'une des doctrines dualistes de l'Inde dans un monde non dualiste.
Donc, mais d'ailleurs, on peut dire que dans le bouddhisme, même s'il n'y a pas un dualisme exprimé de cette manière-là, quand Bouddha dit « tout est souffrance » dans le monde dans lequel on est, c'est quand même pas une vision très positive du monde phénoménal, on dira.
Tout à fait. C'est pour ça que le lien qui réunit les différents mouvements, le zoroastrisme, le bouddhisme, le manichéisme et le christianisme, est centré autour, en tant que point de départ, l'existence de la souffrance. Et comment résoudre
cette question-là et résoudre l'action du mal et de la souffrance. Absolument. C'est vraiment le cœur de tout.
Absolument.
Et c'est pourquoi je vous ai choisi un texte qui illustre cette question de manière assez saisissante, je dois dire. C'est un hymne qui a été trouvé justement dans le Turpan, autre origine de notre connaissance sur le manichéisme. Donc cet ensemble de manuscrits qui a été trouvé à Turpan, à peu près vers 1930, vous disiez.
Turpan, non, c'est les découvertes, c'est tout au début du siècle.
Tout au début du siècle, du 20e siècle.
Des textes et surtout un site. Un site manichéen dans lequel il y avait, on en parlera aussi un peu plus tard, mais les peintures, hein, puisque Mani avait une activité de peintre, et les manichéens aussi avaient une activité de peintre. Et toutes les représentations, les miniatures manichéennes que nous connaissons aujourd'hui ont été retrouvées dans cette même région de Turpan, donc qui est sur la route de la soie. Hein, donc,
voilà. Et donc, c'est un hymne. Il y a un ensemble d'hymnes qui sont d'ailleurs très beaux, plus beaux les uns que les autres. En tout cas, celui-là s'intitule « Dessein de l'âme ». Et il nous montre précisément cette situation de l'homme dans le monde comme étant une situation de dualisme, en fait. Issu de la lumière et des dieux, me voici en exil et séparé d'eux. Les ennemis fondant sur moi m'ont emmené parmi les morts. Qu'ils soient bénis et trouvent délivrance. Qui délivrera mon âme de l'angoisse ? Je suis un dieu, aîné des dieux, brillant, scintillant, lumineux, rayonnant, parfumé et beau. Mais maintenant, réduit à souffrir. Des diables sans nombre m'ont saisi, hideux, qui m'ont ôté ma force. Mon âme a perdu contenance. Ils m'ont mordu, dépecé, dévoré. Démons, yaksha et péri, sombres dragons inexorables, répugnants, puants et noirs, ils m'ont fait voir douleur et mort. Contre moi, ils hurlent et s'élancent. Ils me poursuivent et m'assaillent.
Alors cette idée quand même de l'exil de l'âme, c'est une idée centrale aussi dans la gnose et dans le néoplatonisme qui sont contemporains de Mani. Il est au cœur aussi de ce mouvement-là.
Tout à fait, tout à fait. C'est même j'allais dire, c'est un fait métahistorique, c'est-à-dire que en 260, le roi perse mène une série de combats contre l'empereur romain, et on a pensé, moi, puisque c'est un fait entre guillemets historique, c'est que Plotin aurait accompagné donc les armées de l'empereur romain, et de l'autre côté, Mani était présent dans la suite.
Donc ils auraient pu se rencontrer.
Et ils auraient pu se rencontrer. Et ce qui est intéressant, c'est que cette rencontre, en fait, on pourrait dire transhistorique, est tout à fait symbolique d'une situation qu'on va retrouver de manière très aiguë, par exemple, chez saint Augustin, qui a été manichéen, mais qui s'est converti au catholicisme par l'intermédiaire du néoplatonisme. Hein, donc, on voit que les néoplatoniciens ont aussi beaucoup combattu les manichéens et les cathares idéologiquement. Et donc, c'est vraiment deux positions, on pourrait dire cela comme ça, hein, deux positions par rapport au bien et au mal.
Et donc, deux positions très différentes à partir d'un même constat.
Oui, tout à fait.
Alors, dites-nous en quoi diverge justement
La question. Alors, il y a une chose, parce que ça permet aussi de tisser le fil, historique. Au moment où, justement, en 260, où Mani est, assiste un peu contraint le roi dans cette expédition contre Rome, c'est le moment où, en fait, Mani va tomber en disgrâce. Dans un moment en particulier, et on va lui demander, le roi va lui demander de lui annoncer sa victoire. Et Mani, alors il lui dit, demande à ton jumeau qui va gagner. Et Mani se retrouve dans l'impossibilité, en fait, de prononcer une réponse. Alors que les mages disent, nous allons gagner. Et effectivement, il y a eu un Shapur a gagné en utilisant la traîtrise, mais il a gagné très vite. Et donc, à partir de ce moment-là, Mani est définitivement disgracié. Pourquoi ? Parce qu'il a lui-même une ambiguïté par rapport à la question de la guerre. Donc, sa doctrine demande qu'on ne verse pas le sang.
Oui, c'est vraiment une doctrine de non-violence radicale.
Absolument non-violente. Donc, la présence aussi des manichéens en accompagnement tient justement à la guérison. Des blessés, apporter la compassion dans un monde de violence. C'est vraiment une idée fondamentale, c'est-à-dire le sens même de la présence du manichéisme et son action dans le monde, si ça n'est pas de changer le monde en changeant d'idéologie, c'est de faire ce que l'on peut dans un monde qui reste profondément violent. Donc ce qui va faire la différence entre le néoplatonisme et le manichéisme, c'est la question de la substantialité du mal. C'est-à-dire, est-ce que le mal existe en soi ou est-ce que le mal n'existe pas en soi ? Là, la position est très claire pour les manichéens. Le mal existe en soi, c'est-à-dire c'est un principe totalement indépendant qui n'est pas simplement la dégradation du bien ou une illusion, comme on trouve par exemple dans l'Advaita ou dans d'autres doctrines. Et là, il y a un nœud, on pourrait dire réellement un nœud, et c'est un nœud aussi auquel va être confronté saint Augustin. Cette question, est-ce que le mal existe en soi ?
Là-dessus que saint Augustin, c'est sur ce point-là qu'il va quitter le manichéisme après avoir été un adepte fervent.
Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est-à-dire que dans le livre, j'analyse assez, je dirais, profondément le cas de saint Augustin, que je pose un peu comme l'antimanie. D'une certaine manière, c'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre justement comment il passe au départ du manichéisme à une vision plus traditionnaliste, il devient catholique. Donc, et puis il se transforme lui-même, c'est pas simplement un adepte du catholicisme, il va devenir prêtre, puis évêque, puis l'un des pères de l'Église. Et il est même, selon un de ses plus grands spécialistes, Peter Brown, il est le fondateur théorique de l'Inquisition. Du moins, Peter Brown, dans ses premiers travaux, le présente comme tel.
Donc, parce qu'il prône effectivement la lutte, ce qu'il appelle la guerre juste.
Tout à fait.
Donc, Augustin va être aussi un de ceux qui va le plus lutter contre le manichéisme, parce que beaucoup de ses écrits parlent du manichéisme de manière... Est-ce que ce qu'il dit du manichéisme est juste, ou c'est faux, ou tout à fait exagéré ?
C'est une excellente question. C'est-à-dire que jusqu'au XXe siècle, une grande partie de la connaissance du manichéisme vient par l'intermédiaire des textes de saint Augustin. Pourquoi ? Parce qu'il a fait partie de l'église manichéenne en Afrique du Nord, à Carthage. Il en a fait partie de l'âge de 19 ans jusqu'à l'âge de 28 ans. C'est quand même toute une partie de sa jeunesse. Et en fait, il adhère au manichéisme par le fait que le manichéisme donne une vision rationnelle de la question du bien et du mal. Pour lui, l'explication, elle était lumineuse. Sa mère était catholique. Pour lui, la religion qu'il voyait autour de lui, surtout à cette époque-là, était une religion, il le dit comme ça, c'est son expression, il dit une religion de bonne femme, c'est-à-dire une religion de dévotion pour l'essentiel, et de croyance. Les manichéens, eux, étaient des gnostiques, c'est-à-dire qu'ils proposaient une voie initiatique basée sur l'expérience illuminative. Et donc, la question du mal ne se résout pas en termes rationnels, mais en termes illuminatifs. Et il n'y a mais cette résolution, est indicible, sauf à le poser comme Mani le pose, c'est-à-dire sous la forme d'un mythe et sous la forme de cette j'allais dire, de ce principe intellectuellement inconcevable qu'il puisse exister à l'origine deux principes. Et c'est ça qui, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que je pense que ce paradoxe, hein, qui est posé comme tel, j'appelle paradoxe manichéen, qu'on pourrait assimiler à un Coran, c'est-à-dire à une énigme que posent les maîtres zen à leurs élèves, tout en sachant que la résolution n'est pas rationnelle, elle ne peut pas être rationnelle, elle est illuminative et elle relève de chacun. C'est ça qui est important. Ça veut dire qu'on peut poser les choses, mais on ne peut pas dire ce que sont les choses. Seule l'expérience propre de chacun, c'est-à-dire de suivre un cheminement qui lui est propre, je dirais chacun sa vérité.
Comment se passe l'initiation ou la spiritualité manichéenne concrète ?
Concrète ? La situation d'Augustin est exemplaire pour cela. L'Église, puisque c'est bien d'une Église dont il s'agit, hein, avec une organisation très précise, il y a cinq niveaux, on pourrait dire, de hiérarchie. Et donc, à la base, disons, les premiers et deuxièmes niveaux sont la distinction entre auditeurs et élus. Donc, les auditeurs, ce sont simplement les simples croyants. Donc, c'est une communauté totale. Elle est divisée donc, entre élus et auditeurs. Et donc, après, il y a des degrés de responsabilité avec des prêtres, des évêques, des apôtres. Donc, les apôtres sont au nombre de 12, les prêtres au nombre de 72, les évêques
donc,
au nombre de 72.
Donc, il a calqué tout ça sur le christianisme. Là, il y a une forte influence de la structure
hiérarchique
du christianisme.
Avec des chiffres qui sont aussi symboliques. Mais
Vous dites qu'il a calqué sur le christianisme. Je voudrais juste faire... En fait, c'est un christianisme, si je ne m'abuse. Le mani se réfère sans cesse à Jésus.
C'est un syncrétisme quand même entre bouddhisme, christianisme et zoroastrisme, si j'ai bien compris.
Mais il n'en appelle jamais, par exemple, à Bouddha ou à Zoroa. Dans les hymnes, il ne parle que du Christ, tous autant qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils se réfèrent au Christ comme étant la référence absolue de leur religion.
Excusez-moi, donc ils se considèrent comme chrétiens comme
C'est, en tout cas, à la lecture des hymnes, on voit qu'il y a une présence quand même, il y a une omniprésence de Jésus. Ça donne l'impression que le manichéisme est quand même à la limite
une forme de christianisme.
Oui, une forme. Il y a le catholicisme, le protestantisme, on pourrait dire presque le manichéisme. S'il avait gagné historiquement, il aurait pu être une des branches du christianisme, non ?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. ce qui est très important, c'est la figure de Jésus joue un rôle absolument central dans la vie de Mani. Il a été éduqué dans un groupe judéo-chrétien.
Voilà, il est le sauveur.
Un groupe où effectivement.
Mais c'est ça qui pose problème, c'est que ce que vous venez de dire, Lily, c'est qu'ici, s'il se considère lui comme le sauveur, Mani
Non, il se considère comme le représentant du Christ. Il est celui qui va porter la parole du Christ, si j'ai bien compris.
Parce que si j'ai bien compris aussi, il se considérait comme le sceau de la prophétie, c'est-à-dire comme le dernier des prophètes, après Bouddha, Zoroastre, Jésus. Donc est-ce qu'il ne se considérait pas comme supérieur à Jésus quelque part ?
Non, il se considère un petit peu comme, ça me fait penser à la figure de Ibn Arabi, hein, pour qui, par exemple, dans le monde musulman, pour qui la figure de Jésus, paradoxalement, est la plus importante. Et en fait, c'est, il a au départ une formation de chrétien. Il a été influencé par les textes, entre autres, de Thomas et par l'évangile de Thomas.
Il dit son jumeau, son double, c'est Thomas, en fait.
Non, il retrouve dans l'évangile de Thomas, en fait, ce qu'il a rencontré en lui-même, c'est-à-dire la figure du jumeau, en disant le jumeau, ou le bien-aimé, qu'on retrouve par exemple chez Krishnamurti aussi, au moment où il a son expérience d'éveil. Là, c'est une figure centrale, intérieure, qu'on retrouve en soi. Et cette figure-là, il la retrouve il la retrouve en lui-même et il la retrouve aussi dans les textes. Dans les textes, entre autres, de l'évangile de Thomas. Donc Thomas, c'est le double. Et c'est le double qui reçoit, en fait, dans l'évangile de Thomas, qui reçoit les paroles secrètes, de Jésus. Donc lui se retrouve exactement dans cette situation-là. Et la figure du Christ est une figure qui lui apparaît. En permanence. Donc, il y a même, on a retrouvé donc le sceau de Mani, et le sceau de Mani, ce qui permettait de sceller les lettres envoyées donc par l'intermédiaire des missionnaires, et c'est Jésus, c'est Mani, apôtre de Jésus. Donc là, il y a aucun doute. C'est-à-dire, il se considère en fait comme l'apôtre de Jésus, comme Paul se considérait comme l'apôtre de Jésus. Paul n'était pas, Paul a eu une vision. Il a vu Jésus en vision. Il n'est pas un des apôtres historiques, hein, comme Marcion, hein, qui vient après Paul, hein,
qui a voulu séparer le judaïsme du christianisme.
Exactement. Et qui, lui aussi, a sa propre révélation et se voit comme un apôtre de Jésus. C'est-à-dire le terme d'apôtre
mais
de Jésus.
Je comprends tout à fait. Mais est-ce qu'il adhère, par exemple, à la théologie paulinienne de la rédemption est-ce qu'il adhère à ce qui est déjà au IIIe siècle en train de se former comme le dogme de la grande église?
Non, c'est plutôt voilà. Ils n'adhèrent pas, puisque ils ne peuvent pas adhérer. C'est puisque c'est
à cause des deux principes.
À cause des deux principes, parce que c'est une des multiples. Quand on se repositionne dans cette époque-là, il n'y a pas un christianisme.
Voilà.
Il y a des christianismes. Et donc c'est le moment où va s'élaborer, pour des raisons politiques, historiques, une vision, on pourrait dire, dominante. Du christianisme. Il faut par exemple imaginer que c'est contre les dualistes qu'a été élaboré le credo. Le credo qui dit le credo de Nicée qui dit je crois en un seul Dieu unique, créateur du ciel et de la terre. Ce à quoi ne croyaient pas les manichéens. Ils croyaient qu'il y avait qu'un seul Dieu, mais pour eux, il n'est pas le créateur du ciel et de la terre.
Oui, c'est la matière et l'œuvre d'un démiurge ou d'un dieu mauvais.
Exactement. Et ça, c'est vraiment très, très important pour comprendre toute cette opposition et le fait que les manichéens sont des chrétiens parmi d'autres.
C'est ce que disait Lélie. C'est une forme de christianisme de type gnostique.
Absolument.
Mais qui a une vision plus syncrétique, c'est-à-dire qui englobe aussi d'autres apports religieux comme le bouddhisme.
C'est pour ça que, par exemple, quand on le compare au catharisme, le catharisme, c'est ce que montrent les recherches, c'est un christianisme. Il n'intègre aucune donnée autre que le christianisme. Et c'est un retour au christianisme primitif selon la vision en fait, des cathares. Là, le manichéisme, c'est la première religion unissant Orient et Occident.
Et oui, on parlait de la transmigration tout à l'heure, d'ailleurs.
Absolument.
Je vous avais interrompu, vous vouliez dire quelque chose sur la transmigration?
C'est que le principe des deux mondes suppose la réincarnation.
Pourquoi?
Parce que, disons, c'est la conception d'ailleurs qu'on retrouve dans l'Église manichéenne, c'est il y a deux mondes. L'homme est coupé du monde de la lumière. Il est prisonnier du monde de la lumière. Il est endormi dans le monde de la lumière. Dans le monde de la matière. Et le but de la vie est de se libérer. Donc, on va se libérer normalement, suite à plusieurs incarnations, c'est le principe aussi du bouddhisme, on se libère en une seule vie et on pénètre dans le nirvana, hein, ou dans le royaume. Pas oublier cette phrase centrale quand même du christianisme. Mon royaume n'est pas de ce monde. Hein, on voit aussi l'analogie. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc la question, elle est celui qui ne se libère pas en une seule existence. Hein,
qu'est-ce qu'il devient?
Que devient-il?
Donc il faut qu'il revienne dans la matière jusqu'à qu'il atteigne l'éveil.
Exactement. C'est exactement le même principe. Hein.
Alors, ce qui m'a frappé, justement, qui m'a fait réfléchir sur la question, je savais que Mani avait été élevé en tant que chrétien dans une secte dite chrétienne, mais ce qui m'a beaucoup frappé en lisant, justement, les psaumes que vous donnez des traductions d'un grand nombre de psaumes manichéens, et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, dans ces hymnes, les manichéens ne prient pas Mani, ils prient Jésus. Et je vous en ai choisi un dont les métaphores sont particulièrement belles. Mais c'est vrai que, je vais dire, on trouve une ou deux fois une allusion à Mani, l'homme de lumière, celui, l'apôtre de Jésus, etc. Mais jamais il n'est la figure centrale. La figure centrale, c'est bien, je dirais Jésus, et je dirais même le Christ dans l'interprétation évidemment manichéenne, c'est-à-dire l'homme de lumière par excellence. Celui qui permet précisément de se libérer. Ce nom de Jésus... Une grâce l'enveloppe. Ton fardeau est léger pour celui qui peut le porter. Que ton amour pour les hommes est grand. Ô Jésus, première rose du Père. Que ta douceur est merveilleuse, toi, le doux parmi les dieux. Quand je pense à toi, mon Seigneur, grande est la crainte qui m'entoure. Quand je veux te glorifier, je ne trouve personne à qui te comparer. Quand je te cherche, je te trouve au-dedans de moi qui m'illumine. Peut-être suis-je digne, moi aussi, d'entendre le divin appel. Ô mon Seigneur, que ta gloire est belle dans ma bouche. La nef de Jésus a jeté l'ancre, chargée de couronnes et de palmes fleuries. C'est Jésus qui l'a conduit. Il fait escale pour nous jusqu'à ce que nous embarquions, les sanctifiés et les purs. Il les prend à son bord. Aussi devenons saints, afin de faire le voyage. Alors, la nef de Jésus prendra sa course ascendante, elle déposera son chargement sur l'autre rive et reviendra pour ceux qui sont restés en arrière. Ce sont les dispersés, ceux qui sont retenus prisonniers dans la tromperie de l'existence. Il les ramènera au port des immortels. Que la victoire et le repos soient à l'âme de Marie.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie de François Favre. Nous parlons de Mani à l'occasion de votre très bon livre Mani, Crise d'Orient, Bouddha d'Occident, qui a été publié en 2002 chez Septenaire. Un tout petit mot sur ce choix de la musique de The Doors, la séquence d'ouverture du film Apocalypse Now.
Oui, j'ai choisi ce morceau puisque c'est une comment dire, il pose une problématique extrêmement intéressante, hein, qui est celle de l'homme confronté au mal. Et donc, à la fin, Marlon Brando est sacrifié par celui qui vient en fait le rechercher, qui est confronté à l'horreur en lui. Et les deux derniers mots de Marlon Brando, c'est horreur. Horreur, hein, qui est en fait l'image, hein, ou du moins l'expression qui synthétise ce qu'a été la guerre du Vietnam, hein, notamment aussi pour des gens de ma génération. Hein. Et donc, ce qui est intéressant, par exemple, ces deux derniers mots sont aussi les deux derniers mots que prononce, hein, saint Augustin lorsque il voit sa ville et l'empire sombrer. Quelle horreur, quelle ténèbre. C'est l'échec, a priori, d'une vie, c'est-à-dire la victoire du mal sur le bien, tel que lui-même s'en faisait une représentation. Mais ce qui est intéressant, toute sa ville va être détruite, mais il restera sa bibliothèque. Et sa bibliothèque, c'est ce qui est légué donc à l'humanité et à la postérité. Mais il y a ce même constat, quelque part, qu'il y a une forme de tragédie dans l'existence qui fait que, par exemple, des hommes non-violents, comme Mani, hein, qui viennent pour prêcher, ou comme le Christ, hein, qui viennent pour prêcher un message de non-violence, sont eux-mêmes victimes de la violence du monde.
Il a très mal fini, Mani. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé.
Oui, disons, effectivement, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, il est confronté à la... le choix, il est placé dans la disgrâce. Hein. Donc, le roi Chapour va mourir, son premier fils... va être, selon la théorie, entre autres, de Malouf, hein, va être empoisonné par les mages, qui, eux, placent, hein, en fait, le second frère qui leur est favorable, et à partir de là, les persécutions contre le manichéisme commencent. Et évidemment, la première victime des persécutions, c'est Mani. Et donc Mani meurt dans des conditions qui sont devenues mythiques. Hein. Il est placé en prison, on le charge de chaîne, et puis il va vivre une passion hein, qui est au cœur de la pratique des manichéens à travers la fête du Béma, et qui célébrera au mois de mars la passion de Mani. Donc même les manichéens avaient cette phrase, Mani a vécu la passion que le Christ n'a pas vécue. Donc ça, c'est un des paradoxes.
C'est Il semble qu'il a quand même vécu une passion, le crime.
Tout à fait. Mais c'est assez caractéristique hein, du positionnement des manichéens, c'est-à-dire pour eux, le Christ était une figure spirituelle, hein, pas nécessairement une figure historique. En vérité, les deux coexistaient dans leur... ils disaient... Jésus a existé, il n'a pas existé. Hein, c'est ce qu'on trouve, par exemple, aussi dans un texte célèbre que lisaient les manichéens qui s'appelle les Actes de Jean, qui est un texte apocryphe. Hein. Jésus a existé, il n'a pas existé. Donc ça, c'est une chose importante. Ils vont célébrer donc, cette crucifixion, ce qu'ils appellent la crucifixion.
Est-ce que Mani a été crucifié également ?
En fait, il est... Oui, c'est... il y a cette image qui reste très forte, hein, effectivement, qu'avaient les voyageurs lorsqu'ils arrivaient à Bethlapat, qui est la ville de Gondishapur, la ville de Chapour, près de Bagdad, c'est le corps de Mani coupé en deux et cloué aux portes de la ville. Et on ouvrait donc la ville avec le corps en exemple. Et c'est l'image qui résume le mieux probablement ce qu'a été l'histoire du manichéisme, c'est-à-dire la mort à cause du dualisme, si on peut le traduire comme ça. Et parce qu'il y a un lien, évidemment, tous les hérésiologues se sont concentrés sur cette question du dualisme que je posais au départ comme une énigme.
Et donc après la mort tragique de Mani, va lui survivre une communauté, des disciples, et vous nous avez dit tout à l'heure jusqu'au XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'il y a eu des communautés manichéennes jusqu'au XVIIe siècle, et aujourd'hui il n'y a plus du tout de manichéens. Vous avez l'air un peu manichéen quand même, non? Vous êtes peut-être le dernier
des manichéens
fidèles.
Ouais. Non, mais c'est probablement vrai, c'est-à-dire le dernier des manichéens. Le dernier des manichéens, c'est une vision du monde qui s'impose à moi quand j'étais adolescent. Et ça reste jusqu'à aujourd'hui, ça ne m'a jamais quitté. Et donc, le manichéisme va se développer au fur et à mesure des persécutions. C'est ça, c'est ce qui explique, en fait, le fait que le manichéisme s'est dispersé dans le monde entier. C'est qu'il a commencé à être persécuté dans l'Empire iranien, puis après dans l'Empire romain, puis après dans l'Empire perse, et puis après, une fois installé dans l'Empire chinois, à nouveau persécuté, et ça va durer donc jusqu'au XVIIe siècle. Alors, jusqu'au VIe siècle, dans le monde romain, deux siècles de persécution et il ne reste plus aucune trace du manichéisme. Et après, le manichéisme oriental, en fait, prend le relais, on va dire ça comme ça. Et là, c'est en l'espace de presque 9 siècles. Mais déjà au XIIe siècle, il n'y a que très peu de traces du manichéisme. Le dernier à rencontrer des manichéens, c'est Marco Polo. Et il les rencontre, en fait, dans la ville où on garde les dernières traces du manichéisme, à Guangzhou. Hein, qui est dans le Fujian, et c'est là où on trouve les vestiges d'un temple manichéen.
Mais en réalité, la thèse de votre livre, c'est que le manichéisme est peut-être mort sous forme d'église, c'est-à-dire sous forme d'institution, et c'est peut-être ce qui va le sauver en tant que religion intérieure, parce que vous êtes peut-être manichéen, mais pas dans le sens institutionnel du terme, si j'ose dire. C'est-à-dire vraiment, vous plaidez pour l'idée que le manichéisme est une dimension de la religion de la lumière telle qu'elle est rivée presque à la nature même de l'âme humaine.
Tout à fait. C'est ce que j'essaye aussi de montrer dans le livre, c'est que le mythe manichéen, en fait, c'est une représentation de l'homme et de l'homme dans ses différents conflits intérieurs avec cette question de l'initiation, c'est-à-dire du passage par des étapes de transformation qui amènent à séparer la lumière et les ténèbres en soi, dans le cœur, dans la tête et dans le bassin. Hein, c'est un processus, on pourrait dire alchimique, hein, de séparation de la lumière et des ténèbres en soi. Donc voilà, ça c'est l'expérience, je dirais, manichéenne, où le mythe est vécu. Et c'est cette idée, pour moi, c'est une des idées importantes. Hein, le mythe.
Mais il n'y a plus aujourd'hui de lieu initiatique où cette tradition se perpétue.
Non.
Donc chacun peut essayer de le comprendre et
tout à fait.
Le vivre comme il veut.
Tout à fait.
C'est sur ce magnifique Laudate Dominum de Mozart que nous terminons cette émission par l'agenda culturel. Lélie Anvar.
Oui, juste très rapidement, outre évidemment l'ouvrage très inspiré et inspirant de François Favre sur Mani, en complément, on peut aussi se référer au manuel de base pour connaître le manichéisme, qui est le livre de François de Cray, Mani et la tradition manichéenne. François de Cray est le grand spécialiste universitaire de cette tradition manichéenne et c'est paru en Point Sagesse, ça fait partie des grands classiques qui est régulièrement réédité.
Vous vouliez citer également un ouvrage sur le manichéisme ?
Sur les continuités en fait, du manichéisme dans la pensée
musulmane,
à travers le livre de Amir Moedzi, qui s'appelle donc l'imam comme guide divin.
Le guide divin dans le schisme du Décimain, exactement.
Exactement, le titre. Parce que ce que montre Amir Moedzi, c'est que la figure de l'homme, en fait, de lumière, qui est l'imam, est absolument centrale dans le chiisme, et que c'est une des continuités
du
manichéisme. Et c'est là où on voit le lien, on pourrait dire, spirituel, oui, qui unit le chiisme, qui est une religion aujourd'hui vivante, avec des religions passées, comme le manichéisme, qui ont été des religions iraniennes.
Et enfin, je voulais... on n'a pas parlé de Mani peintre, ce qui est bien dommage, puisque c'est vraiment la figure du peintre par excellence, mais je voudrais quand même en profiter pour citer une BD qui vient de sortir, basée sur votre roman, Frédéric, L'Oracle de la Luna. Et c'est une BD dont le scénario est de vous, évidemment, puisque c'est basé sur votre roman. Et les dessins sont de Griffo. Et c'est donc une illustration, c'est dans la droite ligne de Mani, peintre, illustrateur du monde intérieur. Donc c'est une BD qui raconte l'histoire, l'oracle de la Luna. Le titre pourrait être presque manichéen. Et le contenu aussi, de temps en temps.
Pas tellement. Pas tellement. Et c'est vrai que j'étais
J'étais
très heureux de l'adaptation par Griffo, qui est un excellent dessinateur du tome 1 là, de L'Oracle de la Luna. Et je renvoie également, pour terminer cette émission, donc une fois de plus à votre très bel ouvrage, Mani, Christ d'Orient, Bouddha d'Occident, François Favre aux éditions du Septenaire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À vous.
Je rappelle que vous pouvez télécharger cette émission pendant 15 jours et la réécouter sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, nous recevrons Dominique Gros qui nous parlera de Marie. Tout de suite, le journal de 8h. Excellente journée à vous.